Nous donnons la parole maintenant donc à Gilles Anus. Je ne sais pas s'il est besoin de le présenter, mais quand même, parce que Gilles est un visage familier des banquets depuis un certain nombre d'années. Vous êtes d'ailleurs un certain nombre dans la salle, on repère les visages, qui assistaient à son séminaire annuel d'été avant le banquet, qui est une sorte d'introduction, de prélude, tout ce qu'on voudra au banquet, qui met en mouvement les esprits. Gilles Anus, en quelques mots pour ceux qui ne le connaissent pas, donc est enseignant de philosophie. Mais je dirais que c'est probablement un philosophe en devenir et il tient en cela de Benny Lévy, dont il était l'élève pendant de nombreuses années. Tu as suivi ses cours de 86 à 95, donc c'est un beau parcours donc, où tu as été enseigné et activé dans la pensée par Benny Lévy. Gilles Anus donc, est par ailleurs directeur de la revue d'études lévinassiennes, qui est une revue, vous en avez des exemplaires à la librairie, une très belle revue qui s'inscrit dans le sillage justement de cet institut d'études lévinassiennes qui se poursuit bien au-delà donc, du fait que Benny nous a quittés. Et tu as publié plusieurs ouvrages qui comptent, qui sont importants, à partir notamment de trois pensées, si on ajoute Sartre, donc de Sartre, du frottement avec Lévinas, donc je pense notamment à Échapper à la philosophie, que tu as publié en 2012 chez Verdier. Et puis en dernier lieu, là, tu as publié Benny Lévy, L'éclat de la pensée, dont tu vas parler implicitement dans ton exposé présent, qui est ton dernier ouvrage paru aussi chez Verdier en 2013, qui est un ouvrage très précieux à lire parce que je pense que c'est le texte qui donne les meilleures clés de lecture de la pensée de Benny Lévy.
Bon, donc j'ai suivi le titre qu'on voit sur les affiches ici, Benny Lévy aujourd'hui, et donc c'est de ça que je vais parler. Alors pour moi, Benny Lévy a été un maître, donc je vais essayer, pour commencer, d'élucider ce que cela signifie. Et je vais partir de ce qu'il disait lui-même dans un de ses cours, qu'on a publié il y a quelques années, un an ou deux, je ne sais plus, sur Lévinas, qui s'appelle « Lévinas, Dieu et la philosophie ». Dans l'un de ses cours, donc, il décrivait lui-même ainsi la relation à un maître. Je le cite donc. « Un maître, ce n'est sûrement pas des raisons que je me donne, ce sont des raisons qui me bousculent, qui m'ébranlent. Un événement qui me force à donner des raisons. Le maître, c'est la figure même de l'antériorité du sensé par rapport à tout ce que je peux constituer. » Voilà la phrase de Benny Lévy. Donc, le maître, c'est celui par le truchement duquel nous entrons dans la pensée et commençons à rendre raison. Les termes sont importants. Rendre raison, c'est, selon Socrate, c'est une certaine antiquité et importance. Ce sont les mots qui déterminent l'activité philosophique. Faire de la philosophie, c'est rendre raison. Je parle évidemment du maître au sens du maître qui enseigne et pas de celui qui domine, bien que la relation d'enseignement implique une irréciprocité, une asymétrie fondamentale. L'éminence du maître n'a rien de statutaire. Elle ne se décrète pas. Elle n'obéit à aucun argument d'autorité. Elle ne s'inscrit dans aucun dispositif hiérarchique. Elle est factuelle. Elle est factuelle, c'est-à-dire qu'elle s'impose toujours à nouveau par elle-même. Sa parole, la parole du maître, contrainte à s'engager dans un travail de pensée, je suis désolé pour l'engagement, mais en tout cas à entrer dans un travail de pensée, c'est pas le même d'ailleurs, à entrer dans un travail de pensée, et donc à déserter le lieu qu'on occupait avant. Avant quoi ? Avant que cette parole ne résonne à nos oreilles. La parole du maître, dit Benny Lévy dans l'extrait que je viens de vous lire, bouscule et ébranle. Autrement dit, elle déplace, bouscule, et met en mouvement. Surprenant, son enseignement rend étranger. Étranger à sa propre pensée, étranger à ce que l'on était préalablement, étranger à son être. L'effet de sa parole est un retournement ou une déclinaison, une déviation fragile mais décisive. Fragile parce que il n'y a là absolument rien de nécessaire. À tout instant, le sujet décentré pour renoncer et rentrer dans le droit chemin d'avant le maître. C'est ce qui nous arrive avec la plupart de nos professeurs. On peut ne pas supporter l'étrangeté à laquelle la parole du maître convoque. Mais déviation décisive, bien que fragile, parce que elle engage subrepticement d'abord, puis explicitement, l'existence comme telle. Plus tard, bien plus tard parfois, cette parole ébranle, et elle procure l'énergie nécessaire à la mise en mouvement. La parole de l'élève reprend alors celle du maître, qu'elle prolonge aux deux sens du terme. Le même mouvement reçoit une impulsion différente et prend de ce fait un aspect inédit. C'est ce qu'exprime le terme de renouvellement. L'élève, désormais étranger, doit inventer un espace, un lieu où résider. Je précise que je n'entends pas résider au sens de s'installer, parce que le maître n'est absolument en aucun cas un fondement ni une justification. Il ne procure d'autre force que celle d'une parole qui se tient. Donc un lieu où résider et où d'autres pourront eux aussi éventuellement trouver une place. Telle est la fécondité de l'enseignement. L'établissement patient d'un espace commun. Un peu à l'image, pour ceux qui viennent en été à la grâce, un peu à l'image de ce qui nous réunit tous les étés avant le banquet dans le séminaire de philosophie. C'est à l'existence d'un tel espace, qui est un espace d'études et de pensée, que se mesure finalement la puissance du maître, sa séminalité, pour user d'un mot que Benny Lévy affectionnait. À une telle condition, l'enseignement reçu, passé, est également enseignement présent, trace vivante de la pensée du maître disparu. La vie, c'est cet incessant renouvellement. Celui qui fut un maître au passé continue alors de l'être. Et cela seul mérite, selon moi, le nom d'actualité, la présence d'une pensée, son actualisation par-delà l'absence. Concernant Benny Lévy, deux choses font obstacle à une telle actualisation, ou ont fait obstacle à une telle actualisation. La caricature, d'une part, et l'oubli de l'autre. Alors la caricature, tout le monde la connaît, elle fait obstacle à la lecture des textes en ne s'intéressant qu'aux personnages dont, au fond, elle ne veut rien apprendre, mais qu'elle prétend enserrer, enfermer dans une formule. Bon, vous la connaissez, on l'a rappelé tout à l'heure, de Mao à Moïse. Rien, disons comme ça, rien ne rassure tant les gens que de croire comprendre quelque chose en exhibant à tout bout de champ quelques mots qui permettent de se comprendre entre initiés. Mais en réalité, se reconnaître dans une formule, ça ne signifie pas connaître ce dont on parle. La formule, censée exprimer de façon concentrée l'essentiel d'une vie, d'une pensée, d'un mouvement, en interdit en réalité l'intelligence, parce que l'intelligence ne passe pas par des formules, elle est toujours singulière. C'est pourquoi on doit, pour aborder les textes de Benny Lévy, ou n'importe quel autre texte d'ailleurs, enfin pour ce qui nous réunit aujourd'hui les textes de Benny Lévy, on doit commencer par mettre les formules de côté. On ne perd absolument rien à se défaire de ces formules. On s'expose en revanche à gagner quelque chose qui, de n'être pas reconnu par les autres, n'en sera pas moins vrai. Bref, on a tout à y gagner. Donc ça, c'était la caricature, maintenant l'oubli. L'oubli, c'est l'effacement progressif de la voix, dont le teint finit par disparaître. Contre cet effacement, nous avons nos souvenirs, si nous l'avons connu, et puis des textes que Benny Lévy a laissés. Encore faut-il, c'est ce que tu disais Dominique, encore faut-il lire ces textes difficiles, et dont la difficulté, et je crois que c'est un point important, dont la difficulté est inhabituelle. Il y a des textes techniquement plus retors que ceux de Benny Lévy, en philosophie du moins. Ici, la difficulté réside dans la modalité de lecture que requièrent ces textes. Benny Lévy, si vous voulez, n'écrivait pas de livres. Il n'était pas auteur, au sens propre. Il lui arrivait cependant de donner à certains de ses enseignements une forme écrite. Et son travail dans l'écriture était toujours un travail de concentration de la pensée. Celle-ci, déposée dans les textes, doit y être retrouvée. Et pour ce faire, il faut les étudier. On ne saurait, autrement dit, de la même façon que Benny n'écrivait pas de livres, on ne saurait lire simplement Benny Lévy. Sa manière d'écrire requiert une intensité qui complique l'abord de ses textes et qui interdit toute volonté de produire une synthèse de ses travaux. Synthèse qui ne serait pas une actualisation, mais une pétrification de sa pensée, la production d'une œuvre en lieu et place d'une pensée. Or, je pense que Benny Lévy, qui a œuvré toute sa vie, n'a pas produit une œuvre. Alors, contre ces deux obstacles, caricature oubli, il fallait essayer de faire retentir la voix de Benny Lévy, d'offrir un accès à sa pensée se faisant, à sa parole circulant, ou à ce qu'on pourrait appeler d'une formule justement l'entrain de se penser, pour rendre patente l'actualité de cette voix. Et il se profilait alors un obstacle de taille, une sorte de danger récurrent et qu'il est impossible d'éliminer définitivement. Autrement dit, ce qu'on appelle un risque. Risque que je vais résumer par quelques questions. Comment éviter de commémorer tout en témoignant cependant? Comment ne pas figer? Comment ne pas se contenter de répéter? Comment être fidèle non seulement aux mots entendus, mais au souffle de vie qui les animait? Comment, en d'autres termes, rendre la pensée vivante et faire que, pensant encore, elle incite d'autres à penser eux-mêmes? C'est un paradoxe. Le maître dont la pensée incite, ou incitait, incite constamment au renouvellement, le maître qui fait de l'incessant rebondissement de la pensée l'essentiel, n'allait-on pas, en parlant de ce qu'il avait pensé, le contraindre à se répéter et affaiblir ainsi la puissance de sa parole? Faire de celle-ci une sorte d'institution, un moment culturel, lui dresser, contre sa volonté clairement exprimée, un mémorial. Dans les premières pages d'Être juif, Béni Lévi écrivait la phrase suivante, rien, il parlait de son itinéraire, rien qui mérite un mémorial. Donc, n'allais-je pas accomplir, moi, en écrivant ce livre, par exemple, le contraire exactement de ce que je souhaitais faire? Évidemment, il était exclu de prendre ce risque à la légère, mais non moins de s'y soustraire. Donc, il s'agissait pour moi, dans ce livre, de rendre hommage, sans céder à ce que j'appellerais la piété, dans un sens négatif de ce terme. Il en est un autre, mais ce n'est pas le lieu ici. Donc, sans céder à la piété, c'est-à-dire en évitant de faire du passé, de l'enseignement ou de la parole de Béni Lévi, un passé mort, sans lien avec le présent vivant. J'appelle piété cette mort consentie, je veux dire cette mort à laquelle on consent, au nom du souvenir. Je voulais, et je veux encore, y échapper autant que faire se peut. Donc ce refus de la piété, s'accompagnant de la conscience extrêmement vive, de la possibilité de son retour à tout moment, sous des formes inattendues, ne condamne pas au silence. À la vérité, vis-à-vis du maître comme de l'ami, le silence est interdit, au même titre que la platitude ou la médiocrité. Il a donc fallu viser, ce qui ne veut pas dire atteindre, une parole qui se tienne à la hauteur de celle de Béni Lévi. Alors, on entendra tout à l'heure, si vous avez l'occasion, il faut vraiment rester pour le film, parce que c'est un grand moment, on entendra tout à l'heure cette parole donc qui terminera notre journée. Donc, que reste-t-il de Béni Lévi? La question ne vise pas qui aurait fortuitement échappé à l'oubli, mais ce qui vit pleinement. Ma réponse à cette question, d'abord, l'intensité. On ne saurait penser sinon intensément. Voilà ce que Béni Lévi a appris à tous ceux qui l'ont côtoyé. Et c'est le trait le plus saillant. Cette intensité était chez lui chaleureuse. Chaleureuse, ça veut dire qu'elle n'excluait absolument pas l'auditeur, comme le fait parfois la trop grande intelligence. Et on en a la trace dans le séminaire sur l'Alcibiade que viennent de publier les éditions Verdier. C'est un cours transcrit, donc vous voyez Béni Lévi avec ses élèves en train d'enseigner. Et on voit exactement la puissance de cette intelligence, toujours à l'écoute de chacun de ceux qui se trouvent en face de lui. Donc une intensité qui invite l'interlocuteur à faire sienne cette intensité. Et donc, c'est très socratique, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Intensité de la pensée de Béni Lévi qui invite au souci de soi, c'est-à-dire à l'excellence. Cette intensité, elle est indissociable de 5 gestes de pensée qui me semblent profondément actuels, sur lesquels je vais revenir dans un instant. Je vais d'abord dire un petit mot sur le titre de mon livre et ensuite je reprendrai chacun des 5. Donc, le titre du livre que je viens de publier, c'est Béni Lévi, l'éclat de la pensée. Enfin, je veux parler de l'éclat, c'est ce qui m'intéresse. L'éclat dont il s'agit doit s'entendre en plusieurs sens. Ce sont d'abord les éclats de voix que je visais. Vous verrez, vous comprendrez en entendant sa voix tout à l'heure pourquoi c'est les éclats qui la décrivent le mieux. Donc les éclats de voix ou les fragments lumineux qu'elle articulait, cette voix. Plus loin, l'éclat de la pensée, c'est son caractère fragmenté qui est lié à son caractère oral, je crois, et qui éloignait la pensée de Béni Lévi de la forme systématique. Surtout, ne pas céder, pour des raisons de fond, surtout ne pas céder à l'illusion d'avoir saisi la totalité du réel dans un réseau de concepts, si pertinent et élaboré soit-il. Cette illusion, elle a un nom, c'est la théorie. La théorie dont Béni Lévi rappelle au début du meurtre du pasteur la phrase fameuse qu'il faisait vibrer à l'époque, la théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. L'éclat de la pensée, donc, l'éloigne de la forme systématique, mais ne procède pourtant d'aucune paresse. Elle tient à la volonté farouche de fuir l'accumulation, à l'incessant souci de reprendre la pensée à son commencement, de toujours lire les textes à neuf. L'éclat s'entend aussi au sens, c'est dans la nouveauté, au sens de la déflagration. La confrontation au texte vise à les faire imploser. S'installant en eux, Benny Lévy les arpentait, les travaillait, les mettait en mouvement, de sorte qu'ils produisent des significations insoupçonnables. Ce renouvellement de la lecture, Benny Lévy lui donnait le nom d'événement, événement de lecture. Chaque événement de lecture est susceptible d'en provoquer un autre qu'il prolonge et qui en augmente la puissance. L'éclat donc comme éclatement. Les textes d'exploser prennent un sens nouveau et les œuvres les mieux connues ne ressemblent plus à ce que l'on croyait en connaître. C'est ce que j'appellerais la lecture comme coup d'éclat. Et cette lecture comme coup d'éclat implique le risque du scandale. On sait que le scandale a accompagné Benny Lévy sa vie durant. Pourtant, le scandale relève du contresens. C'est un contresens. Impuissant à voir la pensée, il ne retient que la violence et il rate l'essentiel. L'essentiel étant la lumière éclairant les textes comme jamais il l'avait été auparavant. Je reviens donc maintenant aux 5 gestes de pensée dont j'ai parlé et dont l'examen structure mon livre. En réalité, chacun des chapitres du livre est consacré à un de ces gestes de pensée. Donc, pour moi, ces 5 gestes constituent, au sens fort de ce mot, l'actualité de la pensée de Benny Lévy. Donc, premier geste, la volonté de réformer la pensée. Réformer la pensée, c'est une expression qui apparaît dans les cahiers de notes de Benny Lévy lors de son travail avec Sartre, lors de son dialogue avec Sartre. Ça a été publié aux éditions Berthier sous le titre « Pouvoir et liberté », qui était le titre que Sartre prévoyait de donner au livre qui aurait résulté de leur dialogue. Donc réformer la pensée, ça signifie à peu près la chose suivante, hein, une espèce d'attention extrêmement vive au fait que l'exercice même de la pensée fasse l'objet d'un incessant questionnement. Penser ne peut signifier en effet, pour Benny Lévy, produire des concepts dans une solitude sublime. Bien que l'acte de penser implique une certaine forme de solitude, la pensée, dans son effectuation, est indissociable, inséparable de la circulation de la parole. Elle doit revenir, cette pensée, à l'intuition fondamentale de Socrate, que la vérité ne peut être atteinte que par le dialogue, qu'il n'y a de pensée vraie qu'au risque de l'exposition. Autrement dit, la réflexion ne vise pas l'œuvre, mais des actes ou des événements de pensée, toujours à reprendre et toujours à renouveler. La difficulté à satisfaire à cette exigence radicale de nouveauté oblige à l'exposition, sous forme de l'enseignement ou sous forme du dialogue. Tout enseignement, évidemment, ne satisfait pas à la règle de l'exposition. Un certain type d'enseignement universitaire ne cesse de s'y soustraire, qui prétend s'imposer par sa seule autorité, et qui, au fond, n'affronte jamais aucune pensée. Seul l'enseignement qui se risque à une telle confrontation est digne de ce nom. Toute discussion ne satisfait pas non plus à la règle, dont le but est bien souvent d'y échapper, de s'en protéger par ce que je vais appeler le bavardage savant, qui interdit toute pensée. Seul le dialogue qui vise à l'établissement d'un « nous », le dialogue donc soucieux de se défaire de l'idée que le « soi » serait l'unique autorité susceptible de produire de la pensée, seul ce dialogue-là est digne de ce nom. Et le « nous » ne désigne ici aucune appartenance, mais la conjonction improbable d'êtres uniques qui se trouvent face à face par leur étude et leur travail commun. Ce souci a présidé au dialogue de Benny Lévy avec Sartre, qui est un moment absolument extraordinaire de son parcours, et puis du parcours de Sartre aussi, pour les gens que ça intéresse, parce que c'est pas du tout quelque chose qu'il ne faudrait regarder que du côté de Benny Lévy, même si c'est passionnant de ce point de vue-là. Mais il s'est passé véritablement quelque chose pour Sartre, bien que vieux et affaibli. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement important pour Sartre dans ce dialogue. Donc ça a présidé à son dialogue avec Sartre, ça a présidé à sa manière de lire les textes en dialoguant toujours, parce que tous ses livres sont des dialogues avec d'autres auteurs, alors pas des dialogues en face-à-face, en vis-à-vis réel, mais avec les textes. Et puis ça a présidé également à la création de l'Institut d'études lévinassiennes, dont on a dit 3 mots, et Institut d'études lévinassiennes, dans lequel Benny Lévy voulait qu'on pratique cette lecture toujours neuve, toujours à neuf, des textes et des problématiques. Donc premier geste, penser autrement qu'on ne le fait habituellement. Deuxième geste, c'est un programme. Alors c'est un programme très long, c'est le programme qu'on résume sous une formule aussi, le programme de sortie de la vision politique du monde. La formule est connue, mais il faut ne pas se méprendre dessus. Alors, on vient de le dire, donc je vais aller rapidement sur ce point. Il ne s'est pas s'agit pour Benny Lévy de déserter l'espace de la réflexion sur l'être ensemble, mais il s'agit d'un programme d'études exigeant qui a impliqué, d'abord avec Sartre et puis ensuite autrement, de réexaminer les textes de philosophie politique pour y traquer les causes de l'échec de ce qu'on appelait à l'époque le tout politique. C'est un programme, donc, j'ai dit, entamé avec Sartre, avec qui ils ont cherché d'abord à repenser la révolution, c'était leur expression, et à la repenser à partir du point d'incandescence, on se retrouve sur le mot, d'incandescence auquel la gauche prolétarienne avait porté la pensée et la pratique du politique. Ils étaient conscients en même temps, Sartre et Benny Lévy, de l'échec, de cette forme inédite et intense. Donc, après avoir examiné la manière dont Benny Lévy et Sartre se sont défaits petit à petit de l'idée de parti ou d'organisation, parti pour Sartre, parce qu'il y a des textes de Sartre très explicites sur la nécessité du parti pour la Révolution, mais il a fallu qu'il s'en défasse, et puis Benny Lévy, dans les textes de l'époque, ou dans les entretiens de l'époque, discute beaucoup de la nécessité de l'organisation, justement. Pas exactement du parti, mais enfin la question du parti s'est posée, semble-t-il, à un moment donné. Donc après avoir rappelé cela, dans le livre, je souligne la façon dont bien plus tard, dans Le Meurtre du Pasteur, Benny Lévy a traqué dans la philosophie politique, cette fois-ci, ce qu'il appelle le crypto-théologique. Crypto-théologique, c'est-à-dire la façon dont la vision politique du monde a toujours fait silence sur son fondement théologique, mais l'a toujours reconduit cependant. Tous les grands textes de philosophie politique étudiés par Benny Lévy dans Le Meurtre des Pasteurs, donc, Hobbes et Spinoza, par exemple, pour donner deux noms, tous ces penseurs se réfèrent pour fonder le politique, et pour fonder le politique sous sa forme démocratique, par exemple, chez Spinoza, se réfèrent à l'événement du Mont Sinaï, disons. Comme modèle, la théocratie authentique, ça c'est les termes de Spinoza, pas les miens, la théocratie authentique comme modèle de la démocratie. Bon, et voilà, Benny Lévy a passé une bonne partie de son existence de penseur à scruter ses effets subreptices de la référence qu'on donne une fois pour ne plus jamais y revenir ensuite, mais en réalité, on ne s'en débarrasse pas de cette façon. Je ne sais pas si c'est comme la rue Dieu, mais ça revient de façon insistante dans la politique, ça produit des effets. Alors, je ne sais pas, chez Spinoza, par exemple, enfin, ce serait toute une journée d'études qu'il faudrait faire, chez Spinoza, ça produit chez un des penseurs les plus consistants et cohérents qui soient, des absurdités, des contradictions assez frappantes. Donc, le fait de renoncer à la révolution, le fait de prendre acte de son renversement totalitaire, n'a pas signifié pour Benny Lévy renoncer à l'universel, mais chercher à le penser autrement. Alors c'est un point important, c'est le troisième geste. Toujours, la question de l'universel s'est trouvée au centre des préoccupations de Benny Lévy. C'est un point important parce que c'est un point qui est souvent très mal compris, notamment des gens qui ont connu Benny Lévy avant ce qu'il appelait son retour. Donc, au lieu d'aller directement et abstraitement à l'extension maximale de l'humain, interroger l'universalité à partir de son intensité. Et pour ce faire, j'essaie de décrire son mouvement de pensée, pour ce faire, revenir au vieux grimoire, au traité vermoulu et à leur manière déroutante de penser l'universel. Alors, je vais le dire brutalement. C'est dans la Torah, texte généralement considéré comme infra-philosophique, qu'on trouve, selon Benny Lévy, une réelle doctrine de l'universel, et pas dans la philosophie. D'où son acharnement à revenir de texte en texte à ce problème, à en éprouver toute la complexité, et à exposer et élucider autant que possible les contours d'une telle doctrine à partir de la science propre à Israël, la chorma, la science. Donc dans le livre, je suis le travail effectué par Benny Lévy dans un livre qui s'appelle « Le Logos et la Lettre ». C'est un travail de, pour dire en deux mots, travail de confrontation de l'exégèse philonienne, donc Philon d'Alexandrie, à partir du texte grec de la Septante, et des concepts de la philosophie grecque, donc confrontation de Philon d'Alexandrie et de son exégèse, à l'exégèse de certains maîtres de la tradition juive sur les questions du symbolique, du politique et du théorique. une des thèses maîtresses de ce livre, c'est que pour les maîtres d'Israël, je cite Benny Lévy, il n'y a pas de symbolique, pas de politique, pas de théorie. Et donc, il faut repenser pour comprendre cette absence, frappante pour nous autres occidentaux. Et il faut repenser ce qu'on appelle aujourd'hui le genre, un mot un peu... Le genre, mais évidemment, sur un mode qui n'a pas grand-chose à voir avec les gender studies. Il faut repenser donc le masculin et le féminin, disons. Il faut repenser l'universel, c'est-à-dire, dans les nouveaux termes qui nous intéressent, le lien entre Israël et, qui s'appelle dans la Torah, les nations, gens qui ne sont pas d'Israël. Et puis, le savoir, c'est-à-dire la question de l'articulation entre la lettre et l'isme. Cette dernière question, cette question du savoir, oblige à interroger la lecture par Philon d'Alexandrie de certains versets bibliques en la confrontant à celle de Rashi. Rashi, qui est un très grand commentateur médiéval de la Torah, incontournable dans l'étude juive. C'est vers lui qu'on se tourne en premier quand on veut comprendre un verset. Et cette question conduit aussi à examiner la question de l'allégorie, qui est cruciale dans toute lecture biblique, on s'en doute, mais également, puisque c'est un des points importants de discussion de Benny Lévy avec la tradition grecque, également dans la lecture de Platon par les néoplatoniciens, puisqu'on a toute une école de commentateurs de Platon, qui s'est interrogée sur la philosophie de Platon sans laisser de côté, par exemple, les textes mythologiques des dialogues de Platon, puisque Socrate régulièrement fait appel à des espèces de mythes ou de légendes. Et donc les néoplatoniciens sont attachés à comprendre ce que ça pouvait vouloir dire que voilà, l'homme qui a été... à leurs yeux, Socrate, qui a été le fondateur même de la philosophie, donc de la pratique d'une langue rationnelle, doivent se référer à plusieurs moments, et pas des petits moments, les moments les plus fondamentaux, à des textes de facture mythologique. Alors cette pensée de l'universel implique, pour Benny Lévy, pour le juif, de faire retour à ce qu'il constitue, ce qui est l'étude âpre, acharnée et fougueuse de ces textes, et pour le non-juif, dont je suis, elle renvoie... ce qui s'appelle dans le Talmud, enfin ça ne s'appelle pas exactement comme ça, ça sera une traduction française de quelque chose qu'on trouve dans le Talmud, le noachisme. C'est-à-dire, le noachisme, on appelle dans le Talmud Bnei Noach, fils de Noé, précisément ceux qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. C'est une notion comme telle. Il y a des choses qui sont dites sur les fils de Noé. C'est une sorte de pensée de l'existence, insoupçonnée évidemment, et qui est liée elle aussi à l'étude de certains passages précis du Talmud, etc., etc. Donc, noachisme, découverte de cette pensée de l'existence insoupçonnée et de ce qu'elle prescrit par-delà toute religiosité. Quatrième geste de pensée s'inscrit partiellement dans le sillage de Lévinas. Ce geste consiste à aborder Dieu, non comme un être, fût-il suprême, non comme une idée, fût-elle métaphysique, vous reconnaîtrez ou pas les philosophes auquel je fais allusion, mais en lecteur du texte révélé, à partir des noms qu'il désigne et qu'il convient d'interroger. Cette exigence incite Benny Lévy à dialoguer avec un texte très peu lu, très peu étudié en philosophie, qui s'appelle « La philosophie de la révélation » de Schelling, un grand penseur allemand idéaliste, très difficile, un peu syncrétique, un peu étrange, donc pour cette raison très peu lu, se prétend beaucoup moins en synthèse que son camarade de classe Hegel. Donc, non, ils ont été à l'école ensemble, ils sont nés en même temps, la même année, je crois, 1770, ils sont allés à l'école ensemble, dans la même formation. Alors Schelling a développé au sein de la philosophie allemande, idéaliste, une réflexion tout à fait intéressante sur les noms de Dieu. Je signale entre parenthèses qu'il était hébraïsant, et que du coup il était effectivement sensible à la lettre du texte. Ce dialogue avec Schelling, il porte plus particulièrement sur ce que Schelling appelait lui-même la philosophie positive, par opposition à la philosophie négative, évidemment. En deux mots, ça veut dire la chose suivante. Une pensée qui se déploierait au-delà du concept. La philosophie négative, entendez toute la philosophie jusqu'à Schelling, évidemment, la philosophie négative partait du concept pour aller à l'existence. Déduisant, par exemple, c'est la fameuse preuve de l'existence de Dieu, l'existence de Dieu de son concept. Je suis obligé de faire très vite, donc je synthétise. Dieu est un être parfait. Un être parfait, c'est un être qui contient toutes les perfections. Or, l'existence est une perfection, donc Dieu existe, nécessairement. Ça, c'est ce que Schelling appelle la philosophie négative, conceptuelle, qui va de l'essence à l'existence. Et Schelling dit, ça ne marche pas. Tout le monde sait, mais enfin, il l'enseigne, ça ne marche pas. Et donc, il propose de prendre la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire, c'est un renversement quasiment existentialiste, en réalité. C'est-à-dire que Schelling propose, quelques années avant Jean-Paul Sartre, propose de partir de l'existence pour éventuellement aller à l'essence. Voilà. Et donc, renversement existentialiste, si l'existence de Dieu n'est pas un concept, eh bien, elle se manifeste dans des textes, et il faut partir de ces textes. Voilà, philosophie positive. Attention à ce que disent les textes sur la question de Dieu. Donc, Dieu considéré comme un nom. Il se trouve que, évidemment, dans la tradition hébraïque, le nom, c'est un des noms de Dieu. Hachem, en hébreu, donc ça veut dire le nom, littéralement. Donc, Béni Lévi développe une pensée du nom, et cette pensée du nom n'équivaut pas à une théologie en ceci qu'elle concerne tous les domaines de l'existence. Chaque situation humaine renvoie au nom. Le sujet, moi, vous, autrui et les autres, sont abordés, notamment dans Visage continu, le premier livre que Béni Lévi a consacré à Lévinas, à l'aide d'une théorie du pronom. Je le mets, enfin, Béni Lévi lui-même l'écrit avec un tiret, pronom. Sujet, je, autrui, tu, les autres, il, elle, etc. Dans la phrase, le pronom reprend, on le sait, le nom, il en supporte le poids et il fait ainsi office de sujet. Par ailleurs, le politique ne fait pas exception, il est concerné par cette pensée du nom. Je cite une courte phrase de Béni Lévi dans un séminaire consacré à Schelling et Rosenzweig, justement, qui dit la chose suivante. La question de Dieu, la plus inactuelle de toutes les questions, le cœur de l'actuel. Contradiction dans une phrase. Alors, pourquoi inactuelle ? Inactuelle, évidemment, parce que dépassée. La question de Dieu semble ne plus se poser. Si on admet que la modernité constitue pour l'humanité l'âge adulte et le refus de toute autorité précédant la pensée humaine, alors la question de Dieu n'a plus lieu d'être posée. L'enfance est archaïque, dont il faut sortir pour accéder à la lumière. On le sait depuis au moins Descartes. En réalité, cependant, ce que dit Béni Lévi, ce qu'il montre, c'est que la question de Dieu commande secrètement ce temps où on aimerait penser que la question ne se pose plus. Comme je disais tout à l'heure, tous les textes fondamentaux de la modernité politique se réfèrent plus ou moins explicitement à cet épisode du Sinaï. J'ai cité Hobbes, Spinoza, voyez Rousseau et lisez Le meurtre du pasteur, vous verrez le travail dans les textes qui le montrent. Alors, puisque tous les textes fondateurs de la philosophie politique moderne s'y réfèrent, le geste de Béni Lévi est très simple, il faut retourner à cet épisode directement, comme tel, c'est-à-dire tel qu'il se donne dans les versets bibliques et leurs commentaires, pour échapper, en tout cas pour avoir une chance d'échapper, à ce qu'il appelait la vision politique du monde, c'est-à-dire à la confusion du politique et de l'absolu. Dénouer les deux, qui étaient extrêmement noués, et notamment dans l'incandescence de la gauche prolétarienne. Enfin, cinquième geste, l'actualité de la pensée de Béni Lévi me semble résider dans sa pratique de la lecture. Jamais la lecture ne doit être répétition. Toujours, elle doit renouveler le texte lu et surprendre de nouvelles possibilités de pensée. La lecture académique ne fait bien souvent mine de réveiller les textes que pour mieux les ensevelir sous des lectures convenues. Lire, cela signifie très souvent, dans nos universités, s'efforcer de retrouver coûte que coûte dans les textes ce que l'on sait d'avance qu'on va y trouver. Jamais Béni Lévi n'a lu ainsi. Toujours sa lecture fut un tête-à-tête intense et radical. J'allais dire en engagement, mais j'enlève tête-à-tête intense et radical. Toujours elle fut somptueusement singulière. Toujours elle chercha à redonner vie au texte qu'elle arpentait et découvrant des accents inattendus. Au cours des entretiens avec Sartre, il est arrivé à Béni Lévi de parler de lecture révolutionnaire. Voilà, c'est ça l'exigence, que toute lecture le soit. Que chacun lise avec rigueur, avec acharnement, pour gagner le sens des textes, sens qui ne saurait être atteint par nul autre. Lire comme personne d'autre n'aurait pu le faire. C'est la pratique de la lecture de Béni Lévi. Alors, j'illustre rapidement ce point, cette manière que Béni Lévi avait de s'installer dans les textes. Son dernier livre, qui s'appelle « Être juif », qui est paru quelques jours après sa mort, son dernier livre reprend le titre d'un article d'Emmanuel Lévinas, ce qui est un témoignage de cette installation dans les textes. Cet article de Lévinas, Béni Lévi l'a repéré depuis très longtemps. On en a la trace dans Le nom de l'homme, en 1984, donc vraiment juste après la mort de Sartre, dans le livre consacré au dialogue avec Sartre. Et puis, L'importance de ce petit article de 1947, c'est une date pour les personnes qui s'intéressent à Lévinas essentielle, 47, c'est le moment d'intensité dans l'existence philosophique et de penseur tout court d'Emmanuel Lévinas. Donc l'importance de ce texte n'a cessé de grandir aux yeux de Benny Lévy au fur et à mesure qu'il prolongeait sa lecture de Lévinas. Il y a une trajectoire de lecture, enfin l'ovalise jolie, une trajectoire. Il y a une trajectoire de lecture de Visage continu, où s'élabore la notion de retour, à Être juif, qui examine la manière dont Lévinas a pensé l'existence juive et la question du mal, les deux grandes questions d'être juif. Et tout au long de cette trajectoire, Benny Lévy examine les mêmes textes, il les relit et les travaille à neuf. Pour essayer de suivre l'effort de pensée de Lévinas dans son effectuation même. Alors, voilà comment Benny Lévy formulait cette exigence. Je le cite à nouveau pour terminer, j'ai fini dans 2 secondes. « Il n'est jamais intéressant de prendre une pensée comme un résultat, un système. Il faut chercher à suivre le penseur dans son mouvement de pensée tel qu'il est agité par ce qu'il n'arrive pas à faire aboutir dans ce qu'il a pensé. » La voix balbutiante de Lévinas, avec tout le respect qu'on lui doit, fait l'objet, de la part de Benny Lévy, d'une attention extrême. Le mouvement de sa pensée, celle de Lévinas, sur l'être juif, qu'il a développé au sortir de la guerre, après l'expérience qu'on sait, enfin, lui, par chance, étant français, était prisonnier comme soldat. Donc, au sortir de la guerre, et en dialogue, c'est un point très important aussi, en dialogue avec les réflexions sur la question juive de Sartre. Dans Être juif, si vous n'avez pas lu, je vous invite vivement à le faire, Benny Lévy reconstitue toutes les étapes de la discussion avec Sartre. Alors, c'est une discussion via les textes, parce que, comme vous savez, ils se sont rencontrés qu'une fois, Sartre et Lévinas. Mais enfin, il y a du côté de Lévinas, une vraie attention aux textes de Sartre et un vrai travail sur les textes de Sartre. Donc, voilà, Benny Lévy reprend tout ce dialogue et le reconstitue de façon extrêmement minutieuse, mais jamais académique. Et puis, les hésitations de Lévinas sur la question du mal, cristallisées autour du nom d'Auschwitz, sont interrogées sans aucune complaisance et à la lumière de l'enseignement, avec une majuscule. Là encore, on a retenu la violence, sans voir le renouvellement. Et on l'a retenu pour de très mauvaises raisons, c'est-à-dire parce qu'on est habitué à un respect tout formel des auteurs, mais qui n'est jamais qu'une manière de les enterrer définitivement. Voilà, pour toutes ces raisons, je pense, je crois, et j'espère qu'on l'entend dans les livres qui viennent de paraître, qu'il est urgent, important, extrêmement important de se défaire des images qui, du vivant de Benny Lévy et puis depuis sa mort, ont empêché de prendre la mesure de son effort de pensée pour revenir enfin à sa parole et découvrir ou redécouvrir ses textes aujourd'hui.
Merci beaucoup, Gilles, pour cette magnifique lecture.